sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Wid le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture! Attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par un conte tchèque de Bohème, intitulé « Souchiné », recueilli et conté par Vratislav Stovicek en 1980. Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons la déclaration d'investiture de Nelson Mandela le 10 mai 1994. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous parlera « Robinier et torchis ». Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et conventions collectives, où nous entendrons les réglementations liées au repos et au congé pour les jeunes. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Souchiné, conte tchèque de Bohème, recueilli et conté par Vratislav Stovicek, traduit par Jean et René Carrel et édité par les éditions Artia et Grund en 1980. Il y avait une fois un charbonnier et une charbonnière qui s'appelaient on ne sait comment. Ils étaient si pauvres que c'est à peine s'ils avaient de quoi vivre. Et pourtant, la femme désirait si passionnément un fils qu'elle priait Dieu et même le diable de lui en accorder un. Son mari la mettait en garde. « Fais attention, ma chère femme, tu pourrais bien t'attirer la colère du ciel. » Peine perdue. La femme n'en faisait qu'à sa tête. Pour lui faire plaisir, l'homme lui rapporta un jour du bois, un petit morceau de souche. On aurait véritablement dit un petit enfant. Il n'y avait qu'à lui retailler un peu les pieds et lui recreuser un peu les orbites, et après cela, on aurait juré qu'il était vivant. La charbonnière l'enveloppa tendrement dans des langes, le prit dans ses bras et lui chanta d'une voix triste.
Dodo, dodo, mon petit souchiné, dodo, dodo, mon petit chéri, mon petit bébé de bois.
Mais Souchiné, tout à coup, gigota, ouvrit les yeux et cria.
Maman, je veux manger!
Quelle joie! La charbonnière et le charbonnier ne cherchèrent pas plus loin. Dès qu'ils furent remis de leur surprise, la femme fit cuire toute une casserole de bouillie. « Tiens, Souchiné, et ne chipote pas !» Mais Souchiné
ne songeait pas à chipoter. Il ouvrit une bouche comme un four et engloutit la bouillie avec la casserole et la cuillère et la mouvette. Tout disparut d'un coup. Mais il ne s'essuya pas la bouche et se remit à crier.
« Maman, je veux manger !»
Mais que lui donner ? Il n'y avait plus la moindre miette de nourriture dans la chaumière. La femme se précipita dehors, tout effarée, et alla emprunter au voisin. Après bien des prières, elle obtint un pot de lait et un pain de seigle. À peine les avait-elle posés sur la table que Souchiné ouvrit la bouche d'une oreille à l'autre et tenez-vous bien, plus trace du lait ni du pain. « Grand Dieu, Souchiné !» s'écria la maman, épouvantée. « Tu n'as pas tout mangé !»«
J'ai tout mangé, maman, » répondit Souchiné, « et je vais te dévorer aussi. »
Il avait à peine prononcé ces mots que sa mère se retrouva dans son estomac. Sur ce, arriva le père et Souchiné brailla.
« Papa, je veux manger !»
Le père n'en pouvait croire ses yeux. Son petit garçon de bois se tenait dans un coin, le corps gros comme une maison et la bouche large ouverte comme une porte cochère. Il s'écria « Que Dieu nous garde des mauvais esprits ! Souchiné, où est maman ?»«
Je l'ai mangé, » répondit Souchiné. « Et toi, papa, je vais te dévorer aussi !»
À peine avait-il prononcé ces mots que le père se retrouvait dans son estomac. Il avala même le chapeau et ne dédaigna pas les sabots. Puis Souchiné s'en alla dans le bois. Il vit venir une fillette qui poussait une brouette.
« Regardez-moi ce petit bonhomme, il ne meurt pas de faim. Où t'es-tu ainsi rempli le ventre ?»«
J'ai mangé, » répondit Souchiné. « J'ai tout mangé. » La bouillie avec la casserole, le lait avec le pot, la miche de pain, maman, papa et toi aussi. Je vais te dévorer. »
Et avant que la malheureuse fillette ait pu faire un geste, elle avait pris le chemin de l'estomac de Souchiné et la brouette aussi. Il ne laissa même pas la roue. Souchiné reprit sa route, par les chemins et les sentiers, par les prés et les prairies. Et voilà que rentrait des champs un paysan avec une charretée de foin. Tout étonné, il s'exclama.
« Hola ! Qu'as-tu fait pour te remplir ainsi la panse ?»«
J'ai mangé, » répondit Souchiné. « J'ai tout mangé. La bouillie avec sa casserole, le pot de lait, la miche de pain, papa et maman, la fillette avec sa brouette et toi, grand sot, je vais te dévorer aussi !»
Le bon paysan n'eut pas le temps de se retourner, Souchiné le goba tout rond, avec sa charrette, son foin, le joug des chevaux, il ne laissa même pas le fouet. Et Souchiné poursuivit sa route. Mais voilà un berger qui revenait du pâturage avec son troupeau de moutons. Les sonnailles sonnaient gaiement, le berger flûtait sur sa flûte. Il s'écria
« Hola ! Tu as l'air de ne pas t'être privé de bonnes choses. »
« J'ai mangé, j'ai tout mangé, » raconta Souchiné. « La bouillie avec la casserole, le pot de lait, la miche de pain, papa et maman, la fillette avec le trèfle, le paysan avec sa charretée de foin et toi, grand sot, je vais te dévorer aussi. »
Dès qu'il eut prononcé ces mots, sans n'y rien pouvoir faire, le berger se retrouva avec son troupeau dans l'estomac de cet insatiable. Il faisait noir comme dans un four. Le berger et ses moutons ne savaient plus où ils en étaient. À ce moment, la plus petite des brebis, une agnelette toute sotte, se mit à bêler.
« Père, nous avons laissé sur le pré ma petite sœur, l'agnelette dorée. Le loup va nous la manger !»
En entendant cela, le vieux père Bouc se mit en colère et de toutes ses forces, il donna de grands coups de corne dans le ventre de Souchiné. Le ventre éclata comme un vieux tonneau.
Sushiné s'étala, tout à plat, sur le pré. Et vous auriez vu ce cortège. D'abord venait le berger avec son troupeau. Il flûtait sur sa flûte et comptait ses moutons. Le paysan sur le bouc et claquant du fouet. Derrière eux, la fillette clopinant avec sa brouette et poussant des cris assourdissants. Puis le père et la mère qui s'enfuirent à toutes jambes. Puis roulèrent la miche de pain, le pot à lait vide, la casserole avec la cuillère et la mouvette. Et qu'advint-il du père et de la mère? Ils ne s'avisèrent plus, même en rêve, de souhaiter que le diable leur envoie un petit enfant. Ils préférèrent attendre que le bon Dieu leur en fasse don. Et croyez-moi, ils n'attendirent pas longtemps.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Déclaration d'investiture de Nelson Mandela, 10 mai 1994.
Majesté, Altesse, invités distingués, camarades et amis, aujourd'hui, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté tout juste née. De l'expérience d'un désastre humain inouï qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nos actions quotidiennes, en tant que simples Sud-Africains, doivent susciter une réalité sud-africaine concrète qui renforcera la foi de l'humanité en la justice, confirmera sa confiance en la noblesse de l'âme humaine et maintiendra tous nos espoirs envers une vie glorieuse pour tous. Tout ceci, nous le devons tant à nous-mêmes qu'aux peuples du monde qui sont si bien représentés ici aujourd'hui. Je n'hésite pas à dire à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché à la terre de ce beau pays que le sont les célèbres jacarandas de Pretoria et les mimosas du Bushveld. Chaque fois que l'un d'entre nous touche le sol de ce pays, nous ressentons un sentiment de renouveau personnel. L'humeur nationale change avec les saisons. Nous sommes mus par un sentiment de joie et d'euphorie lorsque l'herbe verdit et que les fleurs s'épanouissent. Cette unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays se déchirer dans un conflit terrible et lorsque nous l'avons vu rejeté, proscrit et isolé par les peuples du monde, précisément parce qu'il était devenu la base universelle de l'idéologie et de la pratique pernicieuse du racisme et de l'oppression raciale. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, Nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre terre nous ait été accordé, à nous qui étions hors la loi, il n'y a pas si longtemps. Nous remercions tous nos distingués invités internationaux d'être venus prendre possession avec le peuple de notre pays de ce qui est, après tout, une victoire commune pour la justice, la paix, la dignité humaine. Nous sommes sûrs que vous continuerez à être à nos côtés lorsque nous aborderons les défis de la construction de la paix, de la prospérité, de la démocratie et que nous nous attaquerons au sexisme et au racisme. Nous apprécions infiniment le rôle qu'ont joué les masses de nos concitoyens et leurs dirigeants politiques, démocratiques, religieux, féminins, jeunes, économiques, traditionnels et autres pour parvenir à cette conclusion. Et parmi eux se trouve notamment mon second vice-président, l'honorable Frédéric Willem de Klerk. Nous aimerions également rendre hommage à nos forces de sécurité, tous grades confondus, pour le rôle distingué qu'elles ont joué en protégeant nos premières élections démocratiques et la transition vers la démocratie des forces sanguinaires qui refusent toujours de voir la lumière. Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relatives. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leur droit inaliénable à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde. Comme gage de son engagement dans le renouveau de notre pays, le nouveau gouvernement transitoire d'unité nationale examinera comme cas d'urgence la question de l'amnistie pour plusieurs catégories de concitoyens qui purgent actuellement des peines d'emprisonnement. Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes et femmes de ce pays et du reste du monde, qui ont sacrifié de diverses manières et mis en jeu leur vie afin que nous puissions être libres. Leurs rêves sont devenus réalité, la liberté est leur récompense. Nous sommes à la fois rendus modestes et exaltés par l'honneur et le privilège que vous, citoyens d'Afrique du Sud, nous avons conféré en tant que premier président du gouvernement uni, démocratique, non racial et non sexiste, de conduire notre pays hors de la vallée des ténèbres. Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous savons bien que nul d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. Nous devons agir ensemble, en tant que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous, que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous. Que chacun sache cela. Car tant le corps que l'esprit et l'âme ont été libérés pour leur plein épanouissement. Que jamais, au grand jamais, ce beau pays ne subisse l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre l'indignité d'être le pestiféré du monde. que règne la liberté. Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse. Dieu bénisse l'Afrique. Merci.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Il y a un sujet qui peut être très intéressant. Qui est celui de savoir ce qu'on peut faire finalement avec les arbres de nos jardins. Donc bien sûr, alors déjà, peut-être un point logique, mais qui peut être bon finalement d'évoquer pourquoi c'est bien d'avoir des arbres dans son jardin. Déjà, bien sûr, peut-être juste pour l'aspect esthétique, parce qu'on aime bien les arbres, ok. Mais au-delà de ça, quand même, d'un point de vue de la biodiversité et de la logique environnementale, plus on a des arbres, plus on va attirer de la vie. Donc concrètement, bien sûr, là je dis les arbres, donc je mets vraiment tous les arbres dans le même panier, ce qui est extrêmement non scientifique. Mais en tout cas, dans nos régions, comme dans l'ouest de la France, nous avons des tas d'arbres qui effectivement fleurissent et fournissent beaucoup de nourriture. Et dans le lot, j'ai envie de vous parler d'un arbre qui s'appelle le robinier faux acacia, et qui m'amènera à vous parler également d'une matière de construction qu'on appelle le torchis, dans laquelle cet arbre peut être impliqué. Le robinier faux acacia, qu'on a en face de nous. Déjà, il est super chouette dans son feuillage. On est au mois d'octobre et on voit que ce robinier, il est dans un vert qui tire vraiment vers le jaune à cette époque, avant de bientôt perdre toutes ses feuilles. Il va fleurir, donc plutôt au moment de l'été. Et là, dans ces moments-là, effectivement, il y a beaucoup d'insectes qui vont venir butiner. Donc déjà, ça fournit de la nourriture pour tous nos petits amis ailés. Et dans les plus gros amis ailés, eh bien, c'est le genre d'arbre qui accueille facilement des nids. Et chez nous, ce sont des nids de pies. Alors, c'est peut-être pas les oiseaux qu'on souhaite le plus, mais ils sont les bienvenus, comme tous les oiseaux. Tant que ça s'équilibre et qu'il n'y a pas que des pies dans un jardin, tout va bien. Et donc, également, comme je vous le disais, le robinier, c'est l'ami du faux acacia. Et tous ces bois-là, ils sont réputés pour être extrêmement denses, extrêmement durs. Donc en fait, ils ont de l'intérêt dans la construction. Chez nous, dans notre maison, qui est une vieille maison qui a à peu près 3 siècles, il y avait un étage existant avec anciennement du torchis. Et quand on a réhabilité l'étage, on a décidé de refaire du torchis, comme ça se faisait dans les temps anciens. Alors pourquoi déjà du torchis? Parce que c'est extrêmement sain pour l'environnement de la maison. Et en plus, c'est une matière qui est très peu chère et qu'on peut apprendre à faire quand on a zéro compétence, comme nous. C'était le cas à l'époque, on avait zéro compétence en construction. Et en quoi l'acacia a-t-il de l'intérêt dans ce que je vous raconte là? Vite fait, peut-être une petite redite d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant. Le torchis, en fait, c'est une matière donc de construction qui est faite à partir d'argile. Donc ça, on l'avait dans notre jardin, en gros, on a creusé un trou, quoi. Voilà. On a de la chance d'avoir de l'argile dans notre jardin. De l'eau, nous on a pris de l'eau de notre puits, et puis de la paille. On est allé chez un voisin agriculteur à côté qui faisait des petites bottes de paille. C'est extrêmement peu coûteux. Il faut juste avoir, comme on dit, du temps et des bras. Hein, donc, s'y mettre et puis venir mélanger ces 3 ingrédients. On obtient une pâte qu'on va appeler le torchis. Comment ce torchis est-il fixé pour, en gros, en faire des murs ou des sols ou des plafonds? Donc, en quoi le robinier a-t-il toute son importance dans ce chantier de torchis? Eh bien, le robinier, en fait, effectivement, va servir de structure pour tenir le torchis. Je vous le dis de façon très simple. Imaginez un encadrement de fenêtre et vous voulez remplir cet encadrement. Eh bien, ce que vous allez faire, si vous voulez le faire en torchis, vous prenez ce qu'on appelle des quenouilles. Des quenouilles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des morceaux de bois taillés dans des bois solides, des bois durs. Et typiquement, le robinier est le bois super utilisé pour faire ces fameuses structures de torchis. Donc, cette quenouille, donc le bout de bois de robinier, on va venir l'entourer d'un boudin qu'on aura fait, un boudin de torchis. Donc je vous rappelle, c'est de l'argile de l'eau, donc on peut venir modeler ça, faire un boudin grossier. Et ce boudin, on va venir l'entourer autour de ce bois de robinier. Et une fois qu'il est entouré comme ça, on se retrouve avec voilà, un bout de bois qui est tout recouvert d'argile et compagnie. On va venir le caler en fait entre les deux pans. Je vous rappelle l'idée de l'encadrement. Imaginez un encadrement dans votre tête. Si vous prenez un bout de bois, vous le mettez en diagonale et que vous remontez légèrement, au bout d'un moment, le bout de bois va venir se caler. Vous faites ça avec de très nombreuses donc, quenouilles. Comme je vous le dis, hein, la quenouille, c'est le bout de bois entouré de torchis. Vous répétez cette opération plusieurs fois. Disons que sur un encadrement de fenêtre, il ferait environ un mètre de haut. Peut-être 10, 12 quenouilles. Vraiment bien entouré de torchis, et une fois que tout ça est posé, on vient rajouter du torchis dans les espaces qui resteront entre chaque quenouille, donc des espaces très peu larges, mais on vient renforcer. Donc le fait d'avoir ce robinier super dur, super solide, imputrescible, il faut le préciser, hein, nous les quenouilles qu'on a qui sont là depuis 3 siècles, elles n'ont pas bougé. C'est quand même un truc de fou. Donc on en a rajouté, on est reparti pour 3 siècles. Donc si dans 3 siècles, il y a des gens qui rachètent cette maison et qui veulent y vivre, il n'y aura pas de problème, les murs sont très très solides. Et c'est limite dur. Nous, on l'a fait, on avait des torchis qui étaient un peu cassés, un peu fébriles. Donc on a préféré les casser pour les refaire. Déjà, la première étape, c'est casser du torchis à 3 siècles. Bah, bon courage, parce que vraiment, l'argile, le robinier, de l'eau, de la paille, c'est extrêmement solide, même si... Peut-être vous entendez ça à la radio, vous n'arrivez pas à percevoir la solidité de la chose. Le torchis, c'est ce qu'on utilise depuis la nuit des temps. Ça a été finalement récemment remplacé par des matières comme le béton. Mais le béton, ce n'est pas une matière qui est très ancienne. Donc on sait que le torchis est une super matière, tout simplement, parce que les bâtiments faits en torchis existent toujours aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des rénovations à faire, mais l'ensemble est vraiment très solide sur du très long terme. La deuxième chose qui est intéressante quand on casse du vieux torchis, c'est qu'on peut le récupérer. On a cassé certains vieux torchis qu'ont 3 siècles. On se retrouve avec de l'argile extrêmement sèche. Il suffit de reprendre cette vieille argile et de la casser avec un marteau. Et puis on se retrouve avec de la poudre d'argile, hein, comme l'argile que j'ai acheté dans le commerce. Si vous faites des masques à l'argile, il suffit de rajouter de l'eau. On rajoute de l'eau à de la poudre d'argile de 3 siècles, et paf, on peut refaire du torchis qui va lui-même redurer 3 siècles. Donc en fait, c'est des matières qui sont réutilisables à l'infini. Et je trouve que quand même, dans le monde dans lequel on est, c'est intéressant de s'en rappeler. Alors pourquoi on ne fait pas du coup toutes les maisons en torchis? On est malheureusement à l'ère du ciment. Mais on voit aussi qu'il y a de l'éco-construction qui revient de plus en plus. Et effectivement, ça fait des habitats plus durables, plus en cohérence avec la nature, mais aussi plus respirables, avec moins de matières nocives dans nos maisons. C'est vraiment une super matière. En un mot, mon message, quand je vous raconte tout ça, en partant comme ça de l'arbre, le robinier, l'idée est de se dire, on a des choses dans nos jardins, bien sûr, pour les gens qui ont cette chance d'avoir un jardin, quelle qu'en soit la taille, ça n'a pas d'importance. Mais l'idée est de se dire, tiens... Au-delà de l'aspect environnemental et esthétique, est-ce que ces arbres qui m'entourent peuvent m'être utiles sans que je leur fasse de mal? Mon discours global, c'est de se dire, avec le bois, rien n'est perdu.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Repos et congés pour les jeunes actifs. Section 1. Repos quotidien. Article L3164-1. La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Cette durée minimale est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans. La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à 12 heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L3163-2 au sujet du travail de nuit. Section 2, repos hebdomadaire et dominical. Article L3164-2. Les jeunes travailleurs ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, sauf convention ou accord pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives. À défaut d'accord, un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. Une convention ou un accord peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures, dont au moins 24 heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. À défaut d'accord, et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L7124-1. Article L3164-3. Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L3132-4, travaux urgents et mesures de sauvetage, et L3132-8, jours de repos collectif, ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Article L3164-4, un décret en Conseil d'État établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire et pour les jeunes prévus aux articles L3132-5, surcroît extraordinaire de travail, L3132-6, chargement et déchargement portuaire, et L3132-7, activité saisonnière. Article L3164-5. L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État. Section 3. Jours fériés. Article L3164-6. Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Article L3164-7. Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L3132-2 et L3164-2. Article L3164-8. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L3164-6 sur les jours fériés, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L3132-2 et L3164-2. Section 4. Congé annuel. Article L3164-9. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence. Pour plus d'informations, rendez-vous au chapitre 4 du titre 6 du livre 1er de la 3e partie de la partie législative du Code du Travail.
Bravo, le Code du Travail, bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-réverbère.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour pour la rubrique environnement Anne-Laure Rousseau, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.